Nous avons entendu dans la première lecture, livre d'Isaïe, « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Il faut parfois se le redire à nous-mêmes que la pensée de Dieu n'est pas la nôtre et que nous avons beaucoup à apprendre de Dieu. Peut-être que parfois, nous, en tant que chrétiens, habitués, réguliers, on va dire, et c'est bien, eh bien, nous pouvons croire avoir saisi suffisamment la pensée de Dieu, avoir compris suffisamment la révélation, l'évangile de notre Seigneur, être finalement nous contenter d'une certaine compréhension et de croire qu'il n'y a plus rien à apprendre. Or, les lectures d'aujourd'hui nous invitent, au contraire, à nous mettre en chemin, à continuer à chercher le Seigneur, à croire vraiment que nous avons besoin d'apprendre le Seigneur, du Seigneur. Alors pour cela, bien sûr, il faut lire la parole de Dieu, c'est la première chose à faire. La parole de Dieu, depuis l'invention de l'imprimerie, eh bien, nous ne l'apprenons plus par cœur. Autrefois, même les paysans cherchaient à connaître les histoires de la Bible. C'est pour ça que les églises étaient ornées et on pouvait raconter des histoires. On connaissait même des textes par cœur. Les clercs aussi essayaient d'apprendre par cœur. Les moines répétaient continuellement la parole de Dieu pour l'apprendre par cœur. Et la langue française fait que quand on dit par cœur, ça veut dire par le cœur et pas seulement par la tête. Et cette habitude était bonne. Aujourd'hui, on a un peu perdu cela. On a notre Bible, j'espère en tout cas. Si on ne l'a pas, il faut l'acheter vite. On a notre Bible à côté de nous, sur notre table de chevet. Et puis, on l'ouvre de temps en temps. Et puis, on entend à l'église un certain nombre de lectures. Et pour certaines d'entre elles, nous les connaissons assez bien. Donc, ce qui fait que nous pouvons facilement passer à côté de l'enseignement qui nous est donné. Mais comme dit saint Ephrem, la parole de Dieu a ceci de particulier, c'est que continuellement, même si tu crois avoir compris des choses, continuellement, tu as d'autres découvertes à faire. C'est comme un filon, comme un filon d'or dans la terre que l'on trouve, et on creuse pour le chercher, puis on le suit pour en découvrir davantage. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Aussi, la parole de Dieu, nous devons la ruminer, la lire et la relire. Ne pas avoir peur de perdre du temps. Quand vous allez, par exemple, à l'adoration, si vous ne savez pas quoi faire, c'est rare, évidemment. Si vous avez un petit peu de sécheresse, un peu de difficulté à prier, eh bien, prenez la parole de Dieu, lisez-la, apprenez-la, ruminez-la. Voilà. Et puis, si jamais nous avons aussi un peu de peine à découvrir les mystères de Dieu, que Dieu veut nous dévoiler des choses nouvelles encore par sa parole, que son enseignement, nous ne l'avons pas tout saisi, que nous ne l'avons pas entièrement accueilli dans notre vie, et bien aussi, il y a la vie des saints. Et c'est vrai que c'est bon aussi de lire à l'occasion une vie de saint, parce qu'on voit dans la vie des saints des choses étonnantes dont on n'aurait pas pensé. Dit « Tiens, comment ça se fait que ce saint, il réagit comme ça face à telle situation ?» Et en fait, ça nous interpelle, y compris pour nous-mêmes, sur notre propre vie, ça nous interpelle pour savoir si, finalement, nous cherchons à vraiment à vivre en chrétien, si nous ne sommes pas finalement un petit peu des chrétiens installés et qui pensent ne plus avoir rien à apprendre de Dieu. La vie des saints nous stimule dans notre désir de Dieu, notre découverte de Dieu. Il y a en particulier la vie, il y a plein de vies de saints très intéressantes, mais Louis et Zélie Martin sont, pour les familles en particulier, pour les couples, c'est vraiment une belle vie qui peut nous interpeller sur notre vie quotidienne aujourd'hui. En plus, c'est pas très vieux, puis ils étaient plutôt d'un milieu pas trop pauvre, ce qui fait que ça ressemble assez bien à ce que nous vivons aujourd'hui. Et ils nous interpellent dans leur manière de réagir, leur rapport à l'argent, leur manière de leur vie conjugale, etc. L'évangile de ce jour nous interpelle, hein, parce que nous voyons que la justice de Dieu est particulière. Nous savons que la justice de Dieu, elle est parfaitement juste, évidemment. Mais elle nous désarçonne, elle nous fait, elle nous questionne, elle nous interroge. Vous avez entendu l'évangile comme moi, cet évangile nous interpelle à chaque fois. Alors, je déduirai trois choses, hein, pour terminer, trois choses de cet évangile. D'une part, que cet évangile démasque en nous que nous ne sommes pas si bons que nous le pensons. Parce que il est dit à la fin de l'évangile, il dit à la fin de l'évangile, « Alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ?» Dieu fait une bonne action et en fait nous on réagit dans une forme de... On trouve cela injuste. Et donc nous voyons, cet évangile démasque en fait que nous ne sommes pas vraiment convertis. Hein, et c'est bon pour nous de le savoir, de nous le rappeler, même si nous avons du mal à aller... se confesser, nous confesser, et parce qu'on se dit, ben, j'arrive pas à trouver une bonne liste de péchés qui donne une justification à ma démarche. Il ne s'agit pas d'avoir une longue liste de péchés, hein. Il s'agit d'avoir la conscience forte que nous ne sommes pas encore convertis, et qu'il y a des péchés que nous voyons, que nous repérons, et puis il y a tous ceux, c'est pour ça qu'en général on termine la confession, quand on a dit nos péchés, on termine en disant, je demande pardon aussi pour tous les péchés dont je n'ai pas conscience, et tous ceux que j'ai oubliés. Toujours rajouter ça à la fin, parce que c'est une réalité. Et puis petit à petit, on chemine. Voilà, en tout cas, cet évangile démasque notre inconversion et nos péchés. Cet évangile nous invite aussi à ne pas nous comparer, à ne pas nous comparer entre nous. En effet, Jésus termine en disant, beaucoup de derniers seront premiers et beaucoup de premiers seront derniers. Et c'est très très important de se dire cela entre nous. Nous n'avons pas à nous comparer. Chacune histoire est unique et notre relation à Dieu est quelque chose de secret quelque part, la relation que chacun a avec Dieu. Et donc, surtout ne pas porter de jugement, quels que soient les épisodes des vies des uns et des autres. Quelqu'un qui a fait de la prison, quelqu'un qui a réussi dans la vie, quelqu'un qui a eu plein de problèmes à la chaîne et d'autres qui a fait même des... Enfin, voilà. Et puis d'autres qui semblent comme ça avoir une vie tout réussie, les enfants ça va bien, etc. Ne nous comparons pas, ne nous jugeons pas mutuellement. C'est pas ce que le Seigneur nous demande et ça nous fait beaucoup de mal. Et ça fait beaucoup de mal à notre communauté chrétienne. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui est le principal, c'est de se poser la question. Pour qui, dans quelle vigne nous travaillons ? Pour qui travaillons-nous dans notre vie ? Puisque nous voyons cette parabole où le maître appelle à plusieurs reprises des ouvriers, donc il en manque, et puis nous savons que Jésus le dit, prier le maître d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Alors, on l'attribue d'abord aux vocations, et on a raison, vocation particulière, mais ce n'est pas uniquement cela. C'est que concrètement, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup n'accueillent pas cette invitation. Et peut-être en sommes-nous, même nous prêtres. Nous pouvons, en tant que prêtres, travailler pour nous-mêmes, pour notre propre satisfaction, pour nos résultats personnels, parce que nous aimons ça. Nous préférons faire ça que d'être, je sais pas quoi, d'être représentant de commerce dans une entreprise. Nous trouvons ça plus intéressant. Donc, quelque part, nous pouvons aussi travailler pour nous. Alors, se poser la question, qui est une bonne question, dans quelle vigne je travaille ? Est-ce que je travaille dans la vigne de Dieu ? Du Seigneur, ou est-ce que je travaille dans ma propre vigne pour avoir une bonne production personnelle et pour, au final, un peu mon orgueil. Voilà, demandons au Seigneur de pouvoir se poser cette question et de donner une réponse, une bonne réponse. Et peut-être un élément qui nous montrera que nous sommes sur le bon chemin, c'est quand nous pouvons reprendre la deuxième lecture que nous avons entendue de saint Paul, où nous pouvons dire comme saint Paul, « Eh bien écoute, là où je serai, ce sera bien. Enfin, l'essentiel, c'est que je sois là où tu veux. » C'est-à-dire que nous soyons une vraie disponibilité intérieure. Et puis comme dit saint Jean Chrysostome, Il ne faut pas se laisser intimider sur le fait que peut-être nous disons, ben ça fait déjà longtemps que je suis chrétien. Est-ce que je suis vraiment au service de la vigne du Seigneur? J'en suis pas complètement sûr. Alors est-ce que c'est peut-être un peu tard, trop tard? Et donc il ne faut surtout pas se dire ça. Cette parabole nous dit clairement qu'il n'est pas trop tard, qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre vraiment au service du Seigneur. Et donc se mettre à la vigne du Seigneur, c'est ce que je vous disais, c'est d'être un peu dans l'attitude de Paul, hein, dans la deuxième lecture, mais c'est aussi évidemment avoir toujours ce souci de mettre le Seigneur en premier, de vouloir l'annoncer, évidemment de donner du temps à la prière, et puis toujours demander au Seigneur ce qu'il pense de ce que nous faisons dans notre vie. Alors je termine par une petite citation d'une homélie, anonyme du 9e siècle. « Que personne donc, quel que soit son âge, ne désespère s'il veut se convertir à Dieu. Travaillez fidèlement dans la vigne de l'Église pour recevoir le salaire du bonheur éternel et régner avec le Christ dans tous les siècles des siècles. » Voilà, que le Seigneur nous aide à répondre à son appel réellement, et si nous avons quitté la vigne du Seigneur, eh bien y revenir bien vite. Amen.